France Inter.
Bonjour, Eric de l'association Christian Leprovost Océanographe. Ce message pour signaler que vendredi prochain à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, dans le cadre de la remise du prix d'océanographie de l'Académie des sciences, il y aura une journée d'exposé pour le grand public. On y parlera du réchauffement de l'océan, de ses conséquences, notamment en termes d'élévation du niveau de la mer, d'érosion du littoral, d'adaptation. Il y aura des exposés par des très bons scientifiques, mais accessibles à tous. L'entrée est libre et gratuite et ça se passera donc vendredi matin à l'hôtel du département des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc et l'après-midi à la salle du Cap à Plérin. Toutes les infos en tapant Journée océanographique 2024 Saint-Brieuc sur votre moteur de recherche. Merci.
Oui, c'est Fredo, là, de Mélionec, Bretagne, Côte d'Armor. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, d'aller poser des bouteilles d'eau d'un litre et demi dans toutes les chaises d'eau publique. Donc, il faut faire ça. Mettez 1,5 litre d'eau dans les chaises d'eau publique. Ça évitera de dépenser de l'eau potable. Allez, à bientôt. Au revoir.
Je voulais juste laisser un message. Bonne nouvelle. Nos hirondelles sont de retour. Elles sont arrivées hier ou avant-hier. Et elles sont plus nombreuses que l'année dernière. Elles ont retrouvé leur nid. Et voilà, ça pépille. Ça pépille, ça pépille.
Ça pépille. Merci pour vos messages, amis de la Terre au carré. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45. C'est un matériau de construction qui a envahi nos vies. Le béton est partout autour de nous, de nos habitations aux zones industrielles, en passant par les infrastructures routières, les ports et les aéroports. Depuis des décennies, le béton coule à flot sur tous les chantiers de France, comme dans le reste du monde. Mais problème, tout ce béton a une durée de vie limitée, 50 à 100 ans tout au plus. Matériau à obsolescence programmée, il faut sans arrêt reconstruire, renouveler. Aujourd'hui, le béton est devenu un enjeu stratégique pour les États, au même titre que l'eau et le pétrole. Mais a-t-on bien conscience de ce que la bétonisation de nos sociétés implique ? La production mondiale de ciment, ingrédient indispensable du béton, émet chaque année deux fois plus de CO2 que tout le trafic aérien mondial. Des quantités phénoménales de sable et de gravier doivent être extraites pour alimenter les bétonneuses de toute la planète. Alors serait-il possible de faire autrement ? Certains parlent de produire un béton vert, plus respectueux de l'environnement ou de recycler ce matériau. Ces solutions sont-elles à la hauteur du problème ? Faudrait-il revenir à des matériaux comme la pierre, le bois, la terre ou la paille ? Et dans quel cas ? N'est-ce pas le gigantisme de nos infrastructures qui est à interroger ? C'est à ces questions que nous allons nous intéresser avec nos invités. Alia Bengana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, enseignante et vous venez de publier avec Claude Bechold et Antoine Maréchal une bande dessinée très instructive intitulée « Béton, enquête en sable mouvant » aux éditions La Cité Graphique. Également avec nous, Nello Magalhaes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de la Transition Environnementale. Vous venez de publier « Accumuler du béton, tracer des routes, une histoire environnementale des grandes infrastructures » chez la Fabrique Éditions. On vous retrouve dans un instant pour attaquer ensemble ce dossier béton et les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser leurs questions sur la page de la Terre au carré vers 14h30 dans sa chronique Camille passe au vert. Camille Crenier reviendra sur un sujet de centrale hydroélectrique sur le Rhône qui fait débat. Voilà pour le sommaire de cette émission préparée par Emma Bouvier, réalisée par Anaïs Reynard avec Mathias Alléon à la technique.
La Terre au carré. Daniel Fievé sur France Inter.
C'est le béton armé qui a permis la construction du pont de Plougastel, le plus long d'Europe, dont chaque arche a une portée de 172 mètres. C'est grâce au béton armé que les plus vastes constructions de l'époque ont pu multiplier leur nombre et surtout leur ampleur. Aujourd'hui, le plus grand chantier français, le barrage de Bord, utilisera 660 000 mètres cubes de béton et des milliers de tonnes de fer. Grâce à l'emploi de ce matériau, est né ce style utilitaire dont les entrepôts de Pantin sont l'un des exemples les plus marquants. Ici, tout est lumière et netteté, car les nouvelles méthodes de construction, avec leurs voûtes d'une portée de 100 mètres, permettent de réaliser dans le même espace le maximum de capacité. Avec le ciment armé, voici 100 ans, trois Français ont donné une nouvelle architecture au monde.
Et voici comment on s'enthousiasmait sur le béton en 1949 dans les actualités françaises. Nello Magalhaes, le béton, un matériau plein de promesses qui allait révolutionner nos façons de construire dans le monde entier. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté, surtout dans ces années-là. Vous êtes remonté jusqu'à cette période de notre histoire.
Oui, l'archive qu'on vient d'entendre, c'est un classique des archives INA, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, un des premiers reportages de Jean-Luc Godard lui-même s'appelle Opération Béton sur un énorme barrage en Suisse, la Grande Dixence. Et avec à peu près les mêmes genres de commentaires sur le béton, c'est moderne, c'est fabuleux, ça permet de construire d'immenses ouvrages inaccessibles auparavant, etc.
C'est ça, c'est le gigantisme, ce sont des infrastructures toujours plus grandes que nous promettait et nous promet encore ce matériau de construction.
Oui, c'est ça. Ça permet de construire des ouvrages élevés déjà, ce qui n'est pas le cas toujours avec d'autres matériaux, et des ouvrages qui symbolisent aussi une certaine modernité dans cette époque d'après-guerre. Que ce soit des barrages ou des grands bâtiments.
Oui. Parce que c'est, alors, votre ouvrage, c'est l'adaptation de votre thèse. Vous avez réfléchi vraiment à ça, à la fois aux routes, aux infrastructures routières, et puis à ces grandes infrastructures qui ont été créées dans les dernières décennies en France.
Absolument. Le point de départ de ce travail, donc c'est une thèse académique dans laquelle je m'intéressais à la matérialité de l'économie. Et en fait, en réfléchissant à c'est quoi l'économie en tonnes, j'ai vu que la plus grande part de l'économie en tonnes, c'est du sable et du gravier. Et où va ce sable et ce gravier? Principalement aux grandes infrastructures, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'après-guerre. Et donc, je me suis demandé quelles étaient ces grandes infrastructures, à quelles étaient leurs fonctions, à quels usages elles répondaient, quelles forces sociales les soutenaient, etc.
Alia Benghana, vous êtes architecte, lorsque vous avez fait vos études en architecture, on vous a appris, ça remonte pas, on n'est pas dans les années 60, on est beaucoup plus près que ça, ça vous a appris que le béton était un matériau de construction par excellence. Encore on glorifiait le béton lors de vos études?
Oui, moi j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et c'était dans les années 90. Et c'est même pas qu'on glorifiait le béton, c'est que le béton était une évidence. C'est-à-dire qu'on n'en parlait même pas, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'autre qui pouvait permettre de donner forme aux espaces que nous apprenions à dessiner, à concevoir, à imaginer. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, moi je viens pas du tout d'une famille d'architectes, j'avais demandé conseil, j'avais dit mais où est-ce que je peux aller à Paris? On m'a dit non, mais va à Paris-Belleville, c'est l'école de Le Corbusier. Oui. C'est là qu'on enseigne l'architecture comme il se doit.
Oui, parce que Le Corbusier, évidemment, est un architecte qui était un des papes du béton. Ses constructions, la forme de ses constructions, tout ça repose sur le béton.
En fait, Le Corbusier, c'est quelqu'un qui a vraiment dessiné notre siècle. Et cette matière lui a permis de le dessiner. Donc aujourd'hui, quand on revient sur le béton, on n'essaie pas non plus de détruire un siècle, mais plutôt de comprendre pourquoi ce siècle s'est construit grâce à cette matière.
Alors ce qui est intéressant, alors vous avez vraiment des parcours différents, et puis même la forme de vos ouvrages sont très différents, mais il y a dans vos parcours un point commun, c'est une prise de conscience. Vous vous êtes mis à interroger cette question de l'utilisation du béton, et ça n'était pas une évidence pour vous au tout départ. Pour vous, Alia Benghana, en tant qu'architecte, il y a eu plusieurs expériences. La première, vous la racontez, c'est l'introduction, le prologue de votre bande dessinée. Vous êtes dans le désert saharien, dans le Sahara algérien, et on vous a missionné pour construire une maison d'hôte. Vous réfléchissez à comment vous allez la construire, cette maison, et je vous laisse raconter la suite.
Oui, alors ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, je venais de me lancer, de monter mon agence à Paris. Et puis, il se trouve qu'on me propose un projet dans mon pays d'origine, qui est l'Algérie, où je suis née, où j'ai grandi. Et donc là, je vais à Timimoun, qui est une très belle oasis du désert algérien. Et donc déjà, je découvre cette oasis que je connaissais pas. Je découvre les sublimes architectures de terre. Je me dis, c'est incroyable, j'ai grandi à Alger, je savais pas que ça existait. On m'en avait jamais parlé pendant mes études. Et puis, quand on arrive là, il semble une évidence en tout cas de comprendre la matière qui a façonné cette oasis, et ça me semblait un peu comme une évidence. Et puis surtout, je suis mise face à mon incompétence, c'est-à-dire je connaissais pas du tout cette matière, je savais pas comment elle fonctionnait, je savais pas comment imaginer, enfin comment en tout cas concevoir un projet avec. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'école d'architecture de Paris-Belleville, la matière n'existait pas, c'est-à-dire qu'en fait on dessinait des traits qui étaient pochés en noir, et c'était juste évident que
ce serait en béton,
que le béton viendrait reviendrai après. Voilà. En tout cas, dans les, enfin, en tout cas avec les architectes que moi je suivais à l'époque. Et là, je me dis bon ben, je vais apprendre. Je vais bien trouver un artisan qui va me montrer comment on construit en terre. Et puis à chaque fois que j'essayais d'aller voir des gens, tout le monde me disait mais pourquoi tu veux construire en terre ? La terre, c'est pour les pauvres. La terre, c'est pas moderne. Nous, dans le désert, on a le droit à la modernité. Et la modernité, c'est laisser tomber ces maisons de chocolat, je me souviens, il m'avait dit ça à l'époque, ouais. Et les remplacer par des parpaings. Ouais. Et donc, quelqu'un m'explique comment on faisait des parpaings. Et là, je comprends que le ciment venait d'Alger et que le sable venait d'Alger.
Ouais. C'est-à-dire qu'on importe du sable dans le désert parce que le sable du désert ne permet pas de faire ce béton. Donc, on se retrouve avec cette ironie, ce paradoxe, ouais. Cette absurdité de faire venir ouais. Du sable par camion
entier. À 1200 kilomètres.
Dans le
ouais.
désert.
Ouais. Et là, je comprends, enfin, ce que je savais pas du tout, c'est que le sable du désert, c'est un sable qui est fin, qui est roulé par le vent et qui ne s'agrège pas bien dans le mélange du béton. Voilà, dans le béton, il y a 75 à 80% de granulats et ce sable-là ne va pas. Et donc, c'est là que je suis face à cette absurdité du béton à tout prix, ouais. Même jusqu'au cœur du Sahara.
Pour vous, Nello Magalhaes, votre prise de conscience, hein, vous commenciez à nous le dire, c'est au moment de faire votre thèse, vous voulez être dans la matérialité des choses, c'est une thèse en économie, et vous dites je vais m'intéresser aux flux de matière, ceux qui sont les plus porteurs, les plus importants dans l'économie de nos sociétés. Vous pensiez tomber sur le pétrole, le métal, et puis finalement, c'est le sable et le gravier qui sous-tendent nos économies, on peut le dire comme ça, ou j'exagère un peu cette découverte ?
Non, c'est grosso modo l'idée. Je m'attendais un peu naïvement peut-être à tomber sur ouais, charbon, pétrole, etc., les matières très précieuses. Et donc dans cette recherche qui est collective, je précise, on tombe sur ce fait majeur qui est que la plus grande extraction de matière en France au XXe siècle, c'est de loin, mais de très très loin, le sable et le gravier. C'est un ordre de grandeur de 10 fois plus ce qu'il y avait de charbon, de minerai de fer, etc. Et il n'y avait pas d'histoire de ça. Il n'y a pas aucune recherche ne s'était intéressée à ça. Aucun travail un peu sérieux n'avait envisagé cette matière, ni d'autres d'ailleurs. Je peux rajouter, il y a deux autres matières ordinaires, quelconques, banales, dont on ne parle jamais, qui sont absentes, qui sont les terres de terrassement et les sédiments de dragage. Ça, c'est aussi des quantités absolument gigantesques, mais qui ne valent rien, qui ne servent à peu près à pas grand-chose, mais qui sont essentielles aux grandes infrastructures. On les retrouve partout, dans tous les chantiers, il y a ces masses gigantesques. Et donc, j'étais très curieux, en effet, de ce manque dans l'historiographie, et j'avais le souhait d'en faire une socio-histoire de cette courbe qui monte, parce qu'évidemment, voir juste une courbe qui monte, c'est intéressant, ça permet de faire des beaux graphiques, etc. Mais l'idée de base en sciences sociales, c'est évidemment d'essayer de la dénaturaliser, de faire en sorte de partir du principe que ça ne va pas de soi, que ça augmente à ce point, et d'essayer d'en comprendre les déterminants.
Et on va essayer de comprendre pourquoi ça augmente toujours, encore et encore, alors que la plupart des bâtiments sont construits. On va essayer de comprendre tout ça dans la suite de cette émission. Revenons, il y a ce chiffre qui m'a marqué dans votre bande dessinée, Alia Bengana, pour montrer l'importance de ces tonnes de gravats. 40 milliards de tonnes par an, soit 5000 kilos par terrien de sable et de gravier. C'est la deuxième matière la plus exploitée au monde après l'eau. Ça paraît absolument vertigineux.
Oui. Ben, en fait, moi, je l'ai découvert aussi parce que là, ce qui s'est passé dans cet ouvrage, c'est une enquête.
Ouais.
Et en fait, moi, j'avais jamais fait d'enquête de ma vie. Et donc, j'ai finalement trouvé le moment pendant le Covid, alors que tous mes projets s'étaient arrêtés, de me plonger un peu sérieusement dans cette matière qui était ma matière adorée, et de comprendre, en tout cas, ces enjeux qui sont également expliqués dans le livre de Nello, de sable. Et donc, je suis allée rencontrer beaucoup de spécialistes. Et pendant le Covid, en Suisse, enfin, il se trouve que j'avais quitté Paris et j'étais allée en Suisse à ce moment-là.
Votre époux est suisse. Hein,
voilà, donc en fait, je vivais à Paris. Et puis pendant le Covid, on est allé en Suisse, dans la maison de la marraine de mon mari. Et en Suisse, c'était un peu moins compliqué le Covid. On pouvait un peu se déplacer. Et là, j'ai contacté un spécialiste qui s'appelle Pascal Peduzzi, qui est vraiment appelé aujourd'hui Monsieur Sable à l'ONU. Et c'est lui qui m'a, en tout cas, qui m'a aidé. Enfin, qui m'a, d'abord, j'ai pu l'interviewer. Ensuite, il m'a donné, en tout cas, toute la littérature. Il m'a conseillé. Puis il m'a expliqué ça. Il m'a dit cette phrase, je me souviens, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Il m'a dit le sable, c'est le héros méconnu de notre société. C'est celui sur lequel tout est construit. Et en fait, c'est celui de notre quotidien. On s'en doute pas. Donc maintenant, il se trouve que, quand même, depuis quelques années, ces questions de sable, et puis aussi grâce à un documentaire de 2013 qui s'appelait « Sable, enquête sur une disparition », ce sont quand même des sujets qui commencent à arriver un peu au grand public. Mais moi, je trouvais à l'époque que, on le savait pas suffisamment. Ouais.
Alors, on va revenir sur les conclusions de vos enquêtes respectives, sur les conséquences de cette exploitation de sable et de gravier pour l'environnement, sur l'économie, les alternatives aussi possibles. C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec vous. Et nous attendons vos questions, amis auditrices et auditeurs, sur la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Eloi qui chantait « Call me » dans La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Sur l'ensemble du territoire français, dans la plupart des vallées, l'exploitation des carrières d'alluvion a déclenché de vastes mouvements de protestation. Une réglementation, publiée il y a maintenant 3 ans, imposait des conditions d'exploitation plus sérieuses, mais elle ne semble pas avoir eu beaucoup d'effets. Les carrières abandonnées sont souvent restées en l'état et d'autres ballastières, ont été ouvertes sans que l'on ait mesuré vraiment leurs conséquences sur l'environnement. Si le sable et le gravier sont utiles et indispensables, notamment pour la construction de logements, il paraît invraisemblable de continuer à se livrer à ce pillage de nos vallées sans connaître les risques qui sont pris. Ces exploitations intensives sont d'autant plus inquiétantes que, comme le souligne un représentant de la Fédération des carriers, au rythme d'extraction actuel, les gisements seront rapidement épuisés.
Une archive qui date de 1974, le présentateur s'appelait Michel Péricard. Donc au début des années 1970, certains parlaient déjà des conséquences de ces extractions de sable et de gravier. Apparemment, on a continué sans trop s'en soucier, Nello Magalhaës.
Oui, absolument. Ça, c'est un fait très important à comprendre, c'est que on savait.
Ouais.
On savait les dégâts, tout ça a été documenté, les voisins, les élus, les associations s'en rendaient compte. Il y avait une extraction massive dans toutes les rivières, depuis les torrents de montagne, l'Isère, le Drac, ouais. L'Arve, la Loire, les grands fleuves étaient concernés.
Toutes les rivières, sans exception.
Absolument.
On a dragué le fond de ces, au point de faire baisser le niveau des rivières, des fleuves.
Absolument. Avec des, donc on a vidé la plupart des rivières de leurs sédiments alluvionnaires,
exactement, ouais.
Qui est un excellent sable et gravier. Ça coûte rien de le draguer, c'est 2-3 machines. Pouvait le faire avec un coût assez faible. Et du point de vue de la réglementation, l'archive souligne qu'il vient de mettre en place une petite réglementation. En réalité, jusqu'en 1970, il n'y a aucune réglementation sur l'exploitation ou le réaménagement de carrières en France. On fait absolument ce qu'on veut.
N'importe qui peut décider de creuser, de se servir, de reboucher ou pas.
Absolument. Donc il suffisait d'une déclaration en mairie, mais qui n'était même pas en fait respectée, ce qui était souvent peu respecté. Et à partir de 70, tout d'un coup, il y a tellement d'alarmes, tellement de contestations, de tensions, de conflits, que une demande au préfet est introduite et il va y avoir une succession de législations à partir des années 70 jusqu'à une interdiction totale d'extraire dans le lit mineur donc de la rivière en 93. Mais de 70 à 93, on sait, on connaît les dégâts, ils sont documentés, tout ça est absolument connu, les tensions existent et pourtant on extrait. On extrait et ça augmente en fait entre 70 et 93, y compris en rivière.
Alors pour la Suisse, parce que vous avez fait votre enquête, Alia Bengana, en Suisse, avec votre conjoint qui est par ailleurs reporter de guerre, donc il avait appris à enquêter, et donc vous avez travaillé tous les deux, il est co-auteur de votre ouvrage, de votre bande dessinée Béton, enquête en sable mouvant. Et alors vous, c'était justement pendant le confinement, puisque c'était moins serré qu'en France, vous promenez dans la campagne alentour et vous observez des foreuses en train de forer sur les terres agricoles. Racontez.
Oui, alors, avant le Covid, moi j'avais envie d'écrire sur le béton et sur le sable, et j'avais commencé à me renseigner, j'avais compris qu'il y avait de véritables dégâts à l'échelle mondiale, voilà, avec le dragage en rivière, comme disait Nello, mais également en mer. Et donc moi, la Suisse, c'est pas mon pays, c'est le pays de mon mari, j'imagine la Suisse comme une espèce de paradis, comme ça, où tout fonctionne très bien, et où c'était sûrement pas le pays où il allait y avoir des problèmes d'extraction. Et donc, on voit cette foreuse en bas de chez nous, et comme on connaît bien les paysans qui sont des amis, on va les voir, on leur dit mais vous cherchez quoi? Donc en rigolant, on leur dit vous cherchez du pétrole? Et on dit mais non, pas du tout, là on est en train de regarder, de forer du sable. Et j'ai dit pourquoi? Elle dit parce qu'il y a des entreprises qui s'intéressent à des gisements mineurs, je vais vous dire pourquoi mineurs, à exploiter dans 15 ans. Et donc c'est là qu'on commence à creuser, et donc on appelle dans le canton, il y a une organisation qui s'occupe de manière très sérieuse de cartographier tous les futurs gisements, comme c'est le cas également en France, et on comprend que les gisements faciles d'accès vont s'épuiser et qu'il va être encore de plus en plus difficile d'ouvrir de nouvelles carrières, et que c'est un peu comme le pétrole, qu'on se met à attaquer les gisements moins faciles, lorsque ceux faciles ne sont plus disponibles. Et puis on peut pas passer son temps à non plus draguer du sable dans le Rhône ou dans le lac Léman. Et là, on comprend que ces agriculteurs, en fait, ne sont absolument pas aidés, et que le Bouygues local qui vient leur demander de signer sur un bout de papier en plein Covid va leur dire « Vous allez gagner plus que toute votre vie en signant sur ce papier. Mais eux, ce qu'ils ne comprennent pas du tout, c'est que la personne, elle, va gagner 40 fois plus en venant enfouir des déchets de chantier. Parce que, comme on disait tout à l'heure, une autre matière très importante, c'est les terres qu'on excave, et puis il faut bien les mettre quelque part. Et en Suisse, il n'y a plus de place, on les envoie en France. Mais en plus de ça, on va ensuite, on va avant ça récupérer du gravier, et après, ni vu ni connu, on vous rajoute une petite couche de terre arable, et puis...
Alors qu'on a quand même endommagé les terres agricoles. Et puis, il y a un tour de passe-passe, hein, parce que normalement, en Suisse, les terres agricoles sont protégées justement de la spéculation pour que les agriculteurs puissent rester à leurs mains. On ne le vend que à des agriculteurs à des prix défiant toute concurrence. Sauf que là, il y a des tours de passe-passe avec des hommes de paille qui achètent ces terres et qui finalement les exploitent pour le gravier. C'est très bien raconté dans votre bande dessinée, hein, qui est vraiment une enquête. Et on peut se demander aussi, Nello Magalès, pourquoi tout ce sable est nécessaire dans la mesure où on ne reconstruit pas les villes tous les jours. Il y a déjà une part des ponts, des routes, des infrastructures qui sont déjà bâties. Alors pourquoi, de façon exponentielle, on extrait de plus en plus de sable et de gravier ?
Ouais, c'était une de mes interrogations de départ, c'est-à-dire que voir une courbe exponentielle dans les années 50, on se dit bon, certes, il faut reconstruire le pays, on imagine des logements, voilà, quelques ponts détruits, quelques infrastructures à reconstruire. Mais en fait, ça s'arrête pas du tout là, quoi. Et alors, ça s'accélère dans les années 60, ça continue dans les années 70, alors une petite baisse dans les années 80. Et en fait, le pic, si on regarde la décennie où on a le plus extrait en France, c'est 98-2008.
Et pourquoi, là ?
Et donc, on se dit, mais 98-2008... Alors, il y a eu quand même beaucoup d'autoroutes construites à ce moment-là, mais en réalité, il y a un enjeu énorme qui est la maintenance. L'entretien, la maintenance, la réparation des routes. Il faut tout le temps réparer, entretenir, pas que les routes, les grandes infrastructures...
C'est ça, il y a les routes qui s'abîment, hein, parce qu'on roule dessus, elles s'abîment, il faut refaire la couche de sable qui est en dessous. Et puis, il y a ce béton qui n'est absolument pas fait pour durer dans le temps. Vous le dites l'un et l'autre dans vos ouvrages, entre 50 et 100 ans, le béton. Après, ça, qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il décrépit comme ça sur place, ce béton ?
Alors, moi, je parlais surtout des constructions. En fait, notre siècle, s'il s'est construit grâce au béton, c'est surtout grâce au béton armé. C'est-à-dire, le béton, c'est un matériau qui travaille en compression. Et on lui a ajouté du métal, donc on l'a armé, pour le faire fonctionner également en traction. Et donc ces deux, cette association, c'est ce qui rend complètement fou notre siècle, c'est-à-dire on arrive à faire des infrastructures, des immeubles toujours plus hauts, etc. Et lorsqu'il est exposé aux intempéries, et ça les ingénieurs du début du siècle n'avaient pas du tout anticipé, le béton il se comporte un peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va absorber le CO2 de l'air, ensuite le CO2 de l'air va arriver jusque au fer. Les fers se comportent comme une anode et une cathode, ça crée des micro-fissures. Et puis, pont de Gênes qui s'écroule parce que...
Donc ça, c'était en 2018, pont de Gênes qui s'écroule, 14 août 2018, parce que ces ouvrages ne sont pas entretenus, parce que le fer à l'intérieur, justement, s'altère et gonfle en s'altérant, si j'ai bien compris et suivi vos dessins dans votre bande dessinée, et les structures peuvent aller jusqu'à l'effondrement. Et là, on se demande, parce que, et vous y faites aussi référence, il y a du béton romain, notamment, qui a 2000 ans, la coupole du Panthéon à Rome, qui est toujours en place, qui a survécu 2000 ans, et notre béton à nous, il ne tient pas 50 ans.
Alors, le béton romain, c'est un béton qui n'est pas armé. Donc ça fait une très grande différence.
Mais
alors,
il serait finalement moins solide, ce béton armé, que le béton non armé ?
Oui, parce qu'en fait, c'est un matériau composite. C'est un matériau qui fait de deux matières qui fonctionnent différemment. Tandis que le béton de la coupole du Panthéon, c'est un béton non armé. Et en plus de ça, on a découvert l'année dernière, il y a eu une découverte absolument fantastique, moi, qui m'a passionnée. C'était chercheurs du MIT qui se sont rendus compte que, en fait, c'était un béton qui était fait avec un mélange de chaux. Et qu'en fait, on intégrait dans ce mélange de la chaux à chaud, c'est-à-dire chaud chaude. Et en fait, cette recette redécouverte a donné une des clés de la pérennité de cette matière.
Il devenait un peu auto-cicatrisant avec cette chaux introduite à chaud. Allez, nous allons poursuivre notre discussion et dans la suite de cette émission, nous verrons avec vous quels matériaux pourraient constituer de bonnes alternatives au béton. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui arrivent nombreuses pour vous. Mais il est grand temps à 14h34 de retrouver Camille Cronier.
France Inter, la Terre au carré.
Camille passe au vert et nous parle d'un projet controversé qui, s'il voit le jour, nécessitera de pas mal de béton.
Direction le Rhône, où la colère semble gronder encore plus fort que le fleuve au sujet d'un projet de barrage hydroélectrique qui pourrait voir le jour en 2033, donc dans un petit peu moins de 10 ans, et qui est qualifié comme ça par les opposants.
Une aberration, je pense que c'est un mot qui colle bien.
Une aberration, dit Clément Pradier, coordinateur du tout jeune collectif Stop Barrage Rhônergia. Rhônergia, nom du projet donc, porté par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, sur une portion de 25 km entre les départements de l'Ain et de l'Isère, et pas n'importe quel 25 km.
C'est un trésor, 25 km qui ne sont pas artificialisés, qui sont libres, qui sont naturels. Et donc, en fait, c'est là, c'est le dernier potentiel, c'est les mots de la CNR, hein, c'est le dernier potentiel de création d'hydroélectricité.
La toute dernière portion intacte, pourrait-on dire, des 520 km du fleuve, qui compte déjà 19 centrales hydroélectriques.
Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut bousiller la dernière portion naturelle du Rhône. Parce qu'en fait, le Rhône, c'est le fleuve le plus artificialisé au monde.
Jérôme Grosy, maire de la commune iséroise de Saint-Romain de Jallionnas, 3500 habitants, situé sur la rive gauche du potentiel futur barrage, se présente comme ça.
Je suis complètement opposé au projet. Oui, alors vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème.
Et voilà pourquoi.
On parle d'une translation du Rhône, c'est-à-dire qu'on va déporter le Rhône, c'est-à-dire que le Rhône actuel à cet endroit qui est naturel à Saint-Romain, ce sera plus de l'eau, ce sera de la terre. Et donc, en fait, on va bétonner et on va réorganiser, on parle de reprofiler le Rhône sur près de 26 km.
Voilà, on change le lit du Rhône, des dégâts sur tout l'écosystème environnant. Et ce n'est pas tout, Clément Pradier explique.
On est quand même sur une zone aussi qui a eu pendant des décennies des rejets de polluants éternels que sont les PCB. Et cette pollution, elle est toujours présente dans le lit du Rhône. Ce qui est dommage, c'est que c'est l'endroit même où ils souhaitent faire le barrage et donc ils vont venir brasser tous les sédiments qui, ben derrière, vont se retrouver un peu en suspension et vont poursuivre leur route en aval.
En aval, où se trouvent les captages d'eau potable pour 1,4 million d'habitants de l'agglomération lyonnaise. Risque environnemental, donc, risque sanitaire trop gros pour un gain énergétique trop faible.
Sa puissance, c'est 37 mégawatts et sa productivité, c'est 140 gigawattheures. Ça représente, on va prendre ce qui est marqué dans le document officiel, ça représente la consommation électrique d'une commune de 60 000 habitants hors chauffage et hors eau sanitaire. Concrètement, c'est une commune de, on va dire, 10 000 habitants, tout compris. C'est-à-dire rien du tout.
Le tout pour 500 millions d'euros. Bref, rien de rien ne joue en faveur de ce projet. Mais son directeur à la Compagnie Nationale du Rhône, Olivier Lebert, contre-argumente. Bah oui, je l'ai appelé aussi. D'abord sur les derniers 25 kilomètres sauvages.
C'est vrai que c'est le dernier tronçon du Rhône à courant libre. Pour autant, il a subi des pressions causées par l'activité agricole, la centrale nucléaire existante, les berges modifiées de longue date depuis les Romains par l'activité de l'homme. Et aujourd'hui, ce n'est plus une zone de biodiversité incroyable.
Et dans tous les cas, des études précises d'impact seront menées pour réduire ou bien sûr, c'est toujours le mot préféré dans ces cas-là, compenser les dégâts sur la pollution.
Ce que l'on a mesuré pour le moment, et on rendra public dans les prochains jours nos diagnostics, c'est qu'on n'a pas relevé de présence de PCB. Voilà, donc ça c'est à parfaire encore, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que nous sommes encore une fois sur une étude globale. Mais en tous les cas, le premier diagnostic que l'on a, c'est plutôt pas ou peu de présence de PCB.
Et si des analyses plus fines les révélaient, alors pareil, ils s'adapteraient sous contrôle de l'État. Enfin, sur le gain énergétique et le prix.
140 gigawatt-heure par an, c'est considérable. Mais à savoir que cet aménagement hydroélectrique, il a une durée de vie de 75 ans et plus. On a trois fois une installation de photovoltaïque ou trois fois une installation d'éolienne à renouveler pour arriver à la même durée.
La CNR avance également surtout que c'est l'État qui l'a missionné pour cet aménagement. Les opposants d'ailleurs le reconnaissent. Elle fait, elle, juste son job de concessionnaire du fleuve. Les opposants précisent bien qu'ils sont pour les énergies renouvelables, hein, c'est pas le problème. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, ils pensent que rénover les 19 centrales déjà existantes serait plus efficace.
Le potentiel d'énergie qu'on pourrait avoir en rénovant 19 barrages de la CNR, c'est l'équivalent de 10 barrages comme celui-là qu'ils veulent construire.
Sauf que la CNR réfute, elle dit qu'il faut tout faire.
Il faut à la fois rénover nos installations pour produire plus et à la fois faire un aménagement hydroélectrique parce qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est RTE, hein, chaque électron compte d'énergie décarbonée au regard de la crise climatique dans laquelle nous sommes.
Alors pas sûr que ça convainque ceux qui sont contre et prêts à mettre la pression autant que possible parce que vous avez bien compris qu'on en est absolument qu'aux prémices. Et le maire Jérôme Grosy prévient.
Il est hors de question que le maire de Saint-Romain, parce que l'État dit on y va, d'organiser par exemple et d'instrumentaliser une ZAD, parce que je ne suis pas pour les ZAD sur ma commune. Par contre, ce que je dis, c'est que si, et c'est très probable, une ZAD s'installe, je vais être franc, je m'en laverai les mains. Et donc là, ça sera au préfet de prendre ses responsabilités.
Voilà, un combat qui ne fait que commencer, ça promet.
Et c'était une rediffusion de la chronique de Camille Cronier, datée du 22 janvier dernier. Toutes les chroniques Camille Passauvert sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. On poursuit notre discussion sur le béton avec nos invités Nello Magalhaes et Alia Bangana. Dans un instant, nous allons voir quel matériau alternatif permettrait de sortir du tout béton. Et puis vous répondrez aux nombreuses questions des auditeurs qui sont arrivées pour vous. C'était Idols qui chantait Grace sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
Si l'industrie du ciment était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de CO2 au monde, derrière la Chine et les États-Unis. La production de ciment, c'est 7% des émissions globales de CO2. Soit trois fois plus que l'aviation. Face à cette empreinte carbone gigantesque et à la nécessité de créer des bâtiments résistants au changement climatique, une course aux alternatives durables et locales est lancée.
Et nous sommes toujours avec l'architecte Alia Bengala, co-autrice de la bande dessinée Béton, enquête en sable mouvant, et Nello Magalhaes, chercheur à l'Institut de la Transition Environnementale, auteur de Accumuler du béton, tracer des routes chez la Fabrique Édition. C'est vrai que c'est un aspect de la production du béton qu'on n'avait pas encore abordé, mais c'est l'émission de CO2 lorsque l'on produit du béton. Nello Magalhaes.
Oui, alors là, il y a un enjeu technique assez intéressant. C'est que les émissions de CO2 de l'industrie cimentaire ne viennent pas d'abord de la consommation d'énergie. En fait, ça vient surtout d'une équation chimique, c'est la chimie, qui fait une bonne partie des émissions. Pour donner un chiffre, en France, cette équation chimique donne à peu près 2/3 des émissions de CO2 de l'industrie cimentière en France. Donc ils auront bon changer de combustible, mettre des alternatives diverses et variées, ils ne pourront pas réduire tant que ça les émissions de CO2. Et donc ils sont face à un dilemme, ils sont face à un insurmontable.
Alors il y a des chiffres très parlants, là on disait dans l'extrait 3 fois plus que le trafic aérien, vous dans votre ouvrage Alia, vous dites 2 fois plus, mais ça reste vertigineux et c'est un peu une sorte de coup caché. Enfin, on se rend pas compte que tout ce béton produit cette quantité de CO2. Ça fait partie du problème du changement climatique, ces productions de béton.
Oui, c'est énorme parce que c'est 8% à l'échelle mondiale. Si on regarde juste la construction, c'est 10%. Et sur ces 10%, 8%, c'est la fabrication de ciment. Donc c'est vraiment un casse-tête absolument énorme. Et tous les pays sont équipés de cimenteries.
Alors, comment on y répond? On parle parfois de béton vert et il y a plusieurs questions d'auditeurs et d'auditrices à ce sujet. Par exemple, Chloé qui nous dit « Je suis étudiante en génie civil et on vient souvent nous présenter des bétons verts. Mais sont-ils vraiment plus verts ou s'agit-il de greenwashing de la part des fabricants ?» Vous voulez répondre à ça, Nello Magalhaes?
Alors oui, c'est du greenwashing.
Voilà, comme ça c'est clair.
Non, pour répondre à la question un peu plus précisément, si on parle de béton vert, c'est pour à mon avis parler de ciment vert dans ce cas-ci, donc de ciment bas carbone. Et en réalité, ils ont une solution qui constitue à se débarrasser du clinker, qui est vraiment l'ingrédient clé du béton, qui est responsable de cette équation chimique.
Si j'ai bien compris, le clinker, je demandais à l'architecte pour pas dire de bêtises à Alia Bengala, mais le clinker, c'est une sorte de liant dont on se sert pour fabriquer le ciment, qui est lui-même l'ingrédient du béton, et la fabrication de ce clinker, de ce liant, est extrêmement productrice de CO2.
Oui, exactement. En fait, c'était ce que disait Nello tout à l'heure. On fait chauffer à 1450 degrés pendant 18 heures dans un four du calcaire et des mardes, donc des argiles. Et donc, au bout du compte, il y a cette équation chimique qui libère du carbone. Et cette matière, le clinker, c'est le constituant principal du ciment. Et donc, pendant très longtemps, on a fait des ciments qui étaient 100% clinker. Et donc, plus un ciment est chargé en clinker, plus il est émetteur en carbone. Et donc, la grande course, c'est réussir à faire des ciments avec le moins de clinker possible.
Et quand on parle de réemploi, ou plutôt de recyclage, parce que c'est encore autre chose le réemploi, mais de recyclage du béton, de béton recyclé, là on est sur une bonne piste selon vous ou pas, Alia Bengala?
On est sur une piste qui est une piste qui doit permettre d'épargner un peu les granulats nobles ou granulats primaires, ceux qu'on va extraire de la nature. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a démolit ces bétons, donc on a des granulats donc qui sont constitués de béton concassé, et après on va devoir rajouter du ciment. Et donc en tout cas au niveau CO2, on n'épargne rien du tout. Voilà. Donc un béton recyclé, c'est pas un béton vert.
Voilà, ça répond à la question de Noël qui dit pourquoi ne peut-on pas réutiliser les gravats en matériaux de construction? Et puis Rémi à Nantes qui nous disait serait-il possible de généraliser les centrales de recyclage des déchets du BTP comme celles qui existent dans le sud de la France? Celui-ci est-il d'aussi bonne qualité et abordable?
J'en ai discuté avec beaucoup de spécialistes de cette histoire, mais j'imagine que Nello aura également une réponse là-dessus. Pendant longtemps, les ingénieurs n'avaient pas tellement envie qu'on vienne leur proposer des granulats sans leur traçabilité. Mmh. Et donc souvent, c'était un peu ceinture et bretelles, et puis on mettait plus de ciment dans ces bétons faits à base de granulats recyclés, parce qu'on avait un peu peur. Donc du coup, on faisait des bétons plus carbonés. Mmh. Donc maintenant, semblerait-il, ça s'est amélioré. Mais en France, par exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait béton recyclé un béton qui avait juste 5% de granulats recyclés. Mmh. Donc là, c'est en train d'augmenter. Chaque année, il faut également que les réglementations évoluent.
Alors Alan, vous posez cette question et ça permet de déboucher sur tout un aspect qui est abordé à la fin de votre bande dessinée, Alia Bengana. Pourquoi s'entêter à essayer de verdir les industries et les énergies polluantes quand on sait que ces transformations sont réalisées grâce à des aberrations écologiques telles qu'une consommation excessive de l'eau, de la destruction massive des sols et des forêts? Ne peut-on pas revenir à des matériaux dits naturels, tout simplement?
Alors, c'est une grande question et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de solution simple. On ne peut pas remplacer un matériau par un autre et le tour est joué. Déjà, on a des structures qui existent et puis il faudrait déjà commencer par juste arrêter de démolir. Parce qu'on démolit beaucoup, on démolit aussi les grands ensembles. Il faudrait en tout cas se demander comment on va plutôt les faire durer le plus longtemps possible. Après, toujours sur le béton, il y a également une partie de la recherche, notamment à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne où j'enseigne, où on imagine aussi comment, par exemple, découper des pans entiers de béton pour les réutiliser plutôt que de les passer en granulats pour refaire du béton avec.
Mais pour les matériaux plus naturels, on pense à la pierre, au bois, à la paille. Vous vous y êtes intéressé à tous ces matériaux-là. Oui. Pourquoi on ne les utilise pas plus?
Je les enseigne aussi. Et alors, ça commence par exemple, en France, aujourd'hui, si on regarde le parc de logements neufs, c'est à peu près 6 à 7% de structures bois. Et c'est en train d'augmenter doucement. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'industrie est outillée pour le béton. Donc c'est ça qui est compliqué. Et le bois, c'est pas une solution partout dans le monde pour toutes les structures, parce que déjà, on n'en a pas suffisamment pour remplacer toutes les structures en béton. Mais plutôt, la chose à laquelle il faut réfléchir, c'est comment réactiver les filières locales et comment considérer toutes ces fibres qui existent déjà, qui sont des coproduits de l'agriculture, comme la paille, le chanvre, le lin, pour venir remplir, par exemple, des structures en bois ou en béton. Et en tout cas, arrêter ce tout béton. On va utiliser le béton et pour la façade, et pour les planchers, et pour les murs refends, et pour les toitures. Donc c'est revenir à une hybridation de matière en fonction des ressources, mais c'est surtout réfléchir à nos usages. A-t-on vraiment besoin de tout ce qu'on fait? Et pourquoi arrêtons de démolir et utilisons ce qu'on a déjà, utilisons les matériaux qui ont déjà été produits?
Estelle vous demande à propos de l'utilisation du bois, pardon. Ce n'est pas avec des immeubles en bois que nous pourrons héberger la population mondiale en évitant l'étalement urbain. Que proposent vos invités pour concilier ZAN, la loi zéro artificialisation des sols, et utiliser d'autres matériaux de construction que le béton?
Alors, les solutions, elles sont pas à l'échelle mondiale. Les solutions, elles sont extrêmement locales. Par exemple, en France, une partie des structures en béton peuvent être remplacées par des structures en bois. Mais le bois, c'est aussi à utiliser avec parcimonie. Donc il faut surtout, comme je disais tout à l'heure, transformer ce qui existe, surélever, peut-être avec du bois, introduire des matières qui sont extrêmement présentes, comme par exemple les terres d'excavation dont on parlait tout à l'heure. C'est ces terres d'excavation, une partie de ces terres peuvent être transformées en matériaux de construction, c'est ce que fait Cycleterre. Donc il y a des solutions qui sont multiples et qui doivent être considérées en fonction de leur localité.
Nello Magalhaes, il faudrait, et c'est ce qu'on comprend en vous lisant, il faudrait aussi réinterroger notre besoin de ces grandes infrastructures, finalement qu'on n'a jamais vraiment choisi, tacitement, on nous impose ce gigantisme.
Oui, c'est aussi ça permet aussi de répondre à cette question des alternatives. En fait, ce que dit Ella est évidemment important, mais l'enjeu vraiment central, et là je vais donner les chiffres les plus récents, y compris du côté des déchets et au niveau de l'extraction, c'est les travaux publics. Beaucoup, beaucoup plus que le bâtiment. C'est donc 80% pour les travaux publics, un peu plus de 80% pour les travaux publics et 19% sur le bâtiment. Donc, combien même on construirait en bambou, en chêne, en pierre, etc., ce qui est évidemment une chose à faire. L'enjeu est du côté des travaux publics. Et pour les déchets aussi, c'est plus de 80% des déchets du BTP viennent des travaux publics et pas du bâtiment. Et donc, les travaux publics, ce sont ces grandes infrastructures, essentiellement les grandes infrastructures de transport. Et donc, c'est évidemment des questions structurantes de l'économie, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de faire transporter des marchandises de haut en bas, de droite à gauche, en toute heure, en toute saison. Et donc là, c'est des questions évidemment qui touchent aux racines de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui.
Allez, suite et fin de notre discussion dans un instant avec nos invités Alia Bengana et Nello Magalhaes. C'était les Brigitte, bien sûr. Battez-vous sur France Inter et ailleurs, dans la Terre au Carré. Nos invités, Alia Bengana, architecte, et Nello Magalhaes, chercheur à l'Institut de la Transition Environnementale. On s'interroge sur nos sociétés toujours plus accros au béton, avec des questions d'auditeurs qui arrivent, et notamment sur l'utilisation des briques. Nicole nous demande « Ma maison est en briques, est-ce un matériau durable ?» Et j'y ajoute la question de Patrice qui dit « Si la construction en briques épargnant le sable semble plus vertueuse, son coût énergétique pour la cuire est-il plus économique et jusqu'à quelle hauteur peut-on construire ?
Alors, les briques, ça, la fabrication des briques comme elles sont cuites, ça émet beaucoup de CO2. Mais lorsqu'elles ont déjà été cuites...
C'est réutilisable.
Alors, c'est réutilisable, ça c'est il faut mettre un petit bémol, c'est-à-dire c'était très réutilisable jusqu'aux années 60 quand on les liait, quand on faisait des mortiers à la chaux. Quand on s'est mis à faire des mortiers au ciment, on n'arrive plus à les déconstruire. Donc en fait, il faut découper des pans entiers de murs pour en refaire. Mais la brique en soi, c'est un matériau absolument incroyable. Donc il faut surtout la faire durer le plus longtemps possible puisqu'elle existe déjà.
Que restera-t-il de nos constructions actuelles dans 2000 ans, Nello Magalhaes ?
Oh, pas grand-chose. Hein. Ouais. Donc on a dit le béton a une durée de vie de 50 à 100 ans. Mais il faudrait insister sur l'aspect socio-économique en fait des durées de vie. C'est pas que technique, c'est-à-dire que la route, tant qu'on décide de l'entretenir pour les usages tels qu'ils sont, eh bien on l'entretient et on doit ouvrir des carrières pour extraire du sable et du gravier, pour remettre de l'asphalte, etc., etc. Donc il y a vraiment un aspect politique important à avoir en tête. C'est pas seulement une loi technique qui s'impose à nous, qu'il faudrait respecter en toute heure, en tout temps. Mais dans 2000 ans, oui, il restera plus grand-chose de toutes ces infrastructures. Dans le livre, je commence par une petite préface qui s'appelle Les Bétonites, qui est un roman dans lequel il y a une épidémie de béton, une épidémie mondiale, et tout s'effondre petit à petit. Ben voilà, les rapports sociaux changent, on produit autrement, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de rapport salarial. Voilà, ce serait peut-être quelque chose comme ça si tout s'effondre vraiment.
Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Alia Bengana, la bande dessinée coécrite avec Claude Bechtold, qui est votre époux, et Antoine Maréchal. La bande dessinée s'intitule « Béton, enquête en sable mouvant » aux éditions La Cité Graphique. Et puis Nello Magalhaës, vous venez de publier « Accumuler du béton, tracer des routes, une histoire environnementale des grandes infrastructures ». C'est paru chez La Fabrique Édition. Un grand merci tous les deux d'être passés par cette terre au carré. Demain, nous nous intéresserons aux conséquences du changement climatique sur nos vignes et nos vins.